les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse.
Si beaucoup de séries ont inspiré le cinéma, à en juger par le nombre croissant d'adaptations de séries sur le grand écran, force est de constater que le 7e art influence également la télévision. Profiler en est l'exemple type, la série piochant vergogne dans les succès cinématographiques de ces dernières années. Et selon toi, Nat, avec style. Bonjour Nat.
Bonjour, eh bien oui, avec style. Profiler, la série est lancée aux États-Unis en 1996 et elle est créée par Cynthia Saunders. Et alors elle fait partie de la trilogie The Others qui est lancée sur NBC avec notamment la célèbre série Le Caméléon. Comme ces dernières, elle fut purement et simplement retirée de l'antenne après 4 ans de bons et loyaux services, alors que les chiffres d'audience et les critiques étaient toujours suffisamment satisfaisants. Et tout comme Le Caméléon, la 4e saison s'achevait sur un cliffhanger majeur. Grâce à l'intervention de ses fans, Le Caméléon put se poursuivre par l'intermédiaire de 2 téléfilms, que je trouvais personnellement assez décevant, mais malheureusement Profiler ne connut pas le même sort et son intrigue restera à jamais inachevée. Enfin, oui et non, enfin c'est compliqué, le mieux c'est que je vous explique tout depuis le début. Alors l'histoire de Profiler, elle surfe allègrement sur la vague des films de serial killer, tels que Le Silence des Agneaux, Copycat ou Seven. Samantha Waters est une jeune psychologue, une Profiler. Kezako, une Profiler. Et bien Profiler est un psychologue qui tente de rentrer dans la tête d'un tueur en série, ou d'un pédophile, ou d'un pyromane, enfin bon, des criminels. Elle tente de les comprendre en analysant leurs meurtres et leurs méfaits et la symbolique qui s'y retrouve. Elle les profile et aide ainsi la police à les coincer puisqu'elle arrive à prévoir leurs faits et gestes. Dans le cas de Sam, elle possède une sorte de don et qui n'a rien de surnaturel. Elle voit les images en flash du meurtrier et de sa victime. Ce don, elle a appris à le maîtriser, bien sûr, en étudiant le comportement des serial killers. Cette clairvoyance lui permet d'être une des profilers les plus douées de sa génération. Et en outre, elle est une femme extrêmement intelligente et cultivée, ce qui explique pourquoi elle est très appréciée et demandée par le FBI. Pourtant, lorsque la série commence, c'est en recluse que Samantha vit en compagnie de sa fille et de sa meilleure amie dans la ferme de cette dernière, Angel. En effet, son mari, donc le mari de Sam, a été tué 3 ans plus tôt par un tueur en série que l'on surnomme Jack of All Trades, autrement dit Jack de tous les coups. Et c'est précisément ce tueur que Sam était en train de profiler à l'époque. Malheureusement, le tueur est tombé amoureux de cette belle et intelligente jeune femme, et il la considère comme son égale. Mais très vite, l'amour qu'il éprouve pour elle va se transformer en obsession, et bien qu'il ne s'attaquera jamais à elle, parce qu'il aime trop pour ça, il décide de tuer toutes les personnes qui se mettent en travers du chemin entre elle et lui, autrement dit le mari, les amis, etc. Comme elle ne veut pas être en danger pour ses proches, Sam décide de se cacher avec sa fille. Et 3 ans plus tard, Belle et Malone, un ami de longue date, reprend contact avec elle et il la supplie de l'aider à traquer un tueur en série que la police n'arrive pas à attraper. Après avoir vaincu un certain nombre de ses réticences, Sam décide de se relancer dans l'action, elle décide de se redévoiler au grand jour. Et elle finit par s'intégrer à la VCTF. Alors VCTF, c'est pour Violent Crime Task Force. Et elle redevient de ce fait la cible de Jack qui revient au premier plan. Et donc voilà pour l'intrigue de base, en fait, qui sous-tend toute la série, je devrais dire plutôt les 3 premières saisons, puisque à partir de la 4e saison, Samantha disparaît. C'est une nouvelle profiler qui entre en jeu. Mais Profiler possède aussi la forme d'une série, puisque chaque semaine, la VCTF fait face à un nouveau meurtrier ou un nouveau criminel. À la VCTF, Sam est accompagné de personnes tout aussi douées qu'elle dans leurs domaines respectifs. John Grant, qui est l'homme d'action un peu frimeur, Grace Alvarez, qui est la scientifique et médecin légiste, George Fraley, qui est le spécialiste informatique, et Belle Malone, qui est le chef un peu craint et respecté. Ensemble, et tout en combinant leurs efforts, ils arrivent à arrêter un meurtrier par semaine, tout en continuant régulièrement à essayer de retrouver Jack. Notons au passage que bien qu'infiniment doué, le seul meurtrier, paradoxalement, que Sam n'arrive pas à profiler correctement et donc à arrêter est Jack. Ce qui permet à la série de créer un climat particulièrement oppressant parce que Jack peut frapper à tous les coups. Donc on la voit arrêter plein de tueurs, mais en attendant, on sait que Jack peut arriver à tout moment et peut tuer un de ses amis.
Tu te rappelles le tueur en série Jack de tous les coups?
Bien sûr. Il a fait 15 victimes dans tout le pays.
15 qu'on ait retrouvées. Il n'a jamais tué 2 fois de la même façon. C'est 12 tueurs différents qu'on croyait devoir chercher jusqu'à ce que Sam comprenne tout.
C'est de lui qu'elle se protège?
Non. Sans elle, le monde manquerait trop d'intérêt pour lui.
Alors de qui elle se protège?
De nous. Elle a un don fantastique. Un esprit comme le sien, on en a trop besoin pour la laisser tranquille.
Que s'est-il passé?
Elle commençait à le cerner. On n'a jamais su comment il a appris son existence, mais il y est parvenu. Il s'est mis à lui faire des envois. Il l'a considéré comme le seul être digne de lui. Il prétendait mesurer son génie au sien.
Tu travailles trop.
Sa démence le poussait à jouer au jeu du chat et de la souris. Nous l'avons mise sous protection 24 heures sur 24. Au bout du compte, elle a préféré abandonner l'enquête. Elle croyait qu'ainsi, il la laisserait en paix. Mais elle lui manquait. Il s'est mis à l'appeler quand elle sortait. Il a commencé à se comporter comme un amant éconduit. Et ensuite, il a pété les plombs. Il a fait la seule chose qui, selon lui, pouvait la forcer à reprendre l'enquête. Il a tué son mari.
Belén a deux mots que pour Samantha, mais c'est pas la seule exceptionnelle dans cette série, finalement.
Non, c'est pas la seule exceptionnelle dans cette série. En fait, cette série est assez exceptionnelle au niveau de son casting. Enfin, je trouve particulièrement excellent, à commencer par Sam, on va encore revenir sur elle quelques instants, qui est interprétée par Ali Walker. Alors, en la voyant, on comprend pourquoi Sam fait l'objet de l'obsession de Jack, puisqu'on la savait intelligente, mais elle est aussi belle. Elle est blonde, dotée d'immenses yeux bleus, la parfaite héroïne hitchcockienne, en fait, finalement. Et au travers de ses yeux, on y aperçoit toute la détresse du monde. Et d'ailleurs, on voit très souvent la caméra qui fait un gros plan sur ses yeux, sur son visage, la voyant réfléchir, la voyant penser, avoir ses flashs. Et donc, c'est vraiment le vecteur émotionnel de la série. C'est vraiment elle et ses yeux sur lesquels on se repose énormément. Alors, à ses côtés, on retrouve Robert Davy, qui joue le personnage de Belle Malone. Son visage est marqué de cicatrices et il colle parfaitement à son rôle de dur à cuire, un peu inflexible, le gros boss de la VCTF.
Avant, il jouait des mafiosos, généralement.
Oui, il jouait des rôles de méchant, mais ça lui va bien de jouer comme ça ce mec un peu dur, mais finalement au cœur tendre. Le reste de l'équipe est loin de faire tâche. On retrouve John Grant, qui est interprété par le beau Julian McMahon, un acteur que nous retrouverons ensuite dans la série Charmed, où il jouera le démon Balthazar, qui tombe amoureux de Phoebe.
On voit bien, oui.
Heureusement, il a quitté cette série pour aller dans une série de plus haute qualité, qui est quand même la série qui fait parler d'elle, Nip Tuck, où il joue ce docteur Lubric dans cette excellente série sanglante. Dans cette série, Nip Tuck, nous retrouvons aussi une rescapée de Profiler, qui est Roma Mafia, qui interprétait Grace Alvarez, le médecin légiste. Citons également Peter Frechette dans le rôle de George Fraley, un rôle aussi un peu casse-gueule puisqu'il est toujours à pianoter derrière son ordinateur. C'est pas facile, n'empêche, pour un acteur d'être tout le temps en train de taper et d'essayer de faire des choses. Mais il arrive à faire exister son personnage de bien belle manière. Les scénaristes de Profiler ont eu le bon goût de faire de tous ces seconds rôles des personnages à part entière. Donc, ils sont pas juste des sous-fifres de Samantha et de Belle. On s'attarde quand même sur eux et sur leur vie privée et sur les conséquences qu'a leur métier sur leur vie privée. Et c'est ainsi donc qu'on l'on voit par exemple Belle Malone qui rame sérieusement avec l'éducation de sa fille, qui est en pleine crise d'adolescence, et les scénaristes iront même jusqu'à la pousser celle-ci à tirer sur son père, enfin un grand moment de la fin de la saison 1. Et du côté des méchants, le casting aussi a été excellent pour choisir Jack, qui d'ailleurs restera une énorme énigme puisqu'on ne verra jamais sa tête, ou en tout cas dans les trois premières saisons, on ne verra jamais sa tête, et donc même au niveau du générique, on ne savait pas quel était l'acteur qui l'interprétait, on voyait juste « et avec Jack », et on voyait quelques images comme ça un peu furtives, mais on ne voyait jamais vraiment son visage. À noter d'ailleurs que les séquences dans lesquelles Jack apparaît possèdent leur propre style. À chaque fois, l'image se met à tanguer furieusement, c'est des flashs, l'image est à une teinte bleutée, comme ça, ça met vraiment un climat un peu oppressant, un peu bizarre, avec une musique aussi en général assez rock, assez dure. Et donc vraiment le climat est assez malsain. Désespérément seul dans la seconde saison, Jack va finir par se trouver une compagne qu'on appelle Sharon Lecter. Alors encore une petite référence à Hannibal Lecter, 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 je trouve que la référence est assez claire, mais cette dernière finira par devenir elle-même incontrôlable et se fera tuer à la fin de cette saison. Alors au début de la saison 3, les scénaristes vont prendre un nouveau risque en faisant finalement arrêter Jack, ou en tout cas celui que l'on croit être Jack, puisque là il va y avoir un gros rebondissement à la fin de cette saison 3. La série prend alors un nouveau tournant, le générique change, les images deviennent plus posées, moins agressives, et le stress provoqué par la traque de Jack n'a plus lieu d'être. La relation entre Sam et Jack évolue d'ailleurs et évoque encore plus le silence des agneaux, puisque Sam ira fréquemment rendre visite à Jack en prison, et donc elle discutera assez souvent avec lui. Il se retrouve d'ailleurs derrière une vitre, exactement comme Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Fin de la saison 3, coup de théâtre, le vrai Jack fait sa réapparition et révèle son vrai visage, parce qu'en fait celui qui a été arrêté est quelqu'un qui se croit et qui se prend pour Jack et qui est amoureux de Samantha Waters également. Et donc Samantha se fait à nouveau enlever par Jack et la VCTF va faire appel à une nouvelle profiler pour essayer d'arrêter enfin le fameux psychopathe. Donc ils font appel à Rachel Burke. C'est assez laid comme nom quand même, hein, Burke.
Effectivement. La pauvre. Ça ne veut peut-être pas dire la même chose.
J'espère pour elle, ça ne veut pas dire la même chose en anglais. Mais en tout cas, en français, ça ne donne pas tellement bien. Et cette profiler a à peu près le même don que Samantha. Et elle est interprétée par Jamie Lerner, que l'on avait pu voir avant dans diverses séries de Aaron Spelling.
Dont Melrose Place.
Dont Melrose Place et dont Savannah, où elle jouait la garce ultime, je crois. Ça, c'est clair.
Elle a un peu changé de registre.
Mais elle reste quand même un peu dure à cuire, comme ça, un peu dure, un peu sèche, comme ça. Grâce à elle, la VCTF va finir par retrouver Sam, et les scénaristes iront d'ailleurs jusqu'à pousser la perversité au maximum, puisque ce n'est pas Jack que Rachel va profiler, mais Sam. Donc pour vraiment sous-entendre que Sam et Jack finalement se ressemblent énormément. Sam finira par tuer Jack à la fin de cet épisode, elle finira par le tuer de sang-froid et elle quittera ensuite la VCTF pour s'occuper essentiellement de sa fille.
Je note que c'est une des très chouettes manières d'amener un nouveau personnage dans une série.
Oui.
La faire profiler une enquête sur laquelle Sam a été enlevé,
voilà. C'est assez chouette. Et pour enfin le faire terminer, mais alors on finit par se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à elle beaucoup plus tôt. Parce que c'est...
Oui et non, parce qu'elle profile Sam et pas Jack, il est toujours aussi difficile à cerner finalement.
Oui, il est toujours aussi difficile à cerner, mais alors on se dit, bah, puisque Sam a autant de mal à profiler Jack, pourquoi ne pas avoir fait appel à un autre profiler pour pouvoir aider Sam à profiler Jack? Mais bon, soit, il fallait bien que forcément l'histoire se tienne pendant ces quelques saisons. Samantha Waters va disparaître de la série, il s'agira d'ailleurs de la dernière apparition d'Ali Walker, et Jamie Lerner devient la nouvelle profiler. Ses dons et ses méthodes sont assez différentes de Samantha, ce qui va provoquer d'ailleurs certaines tensions dans le groupe. Le groupe s'étonne des méthodes de la nouvelle profiler.
Je veux savoir qui a divulgué tout ça et je veux le savoir tout de suite.
Ce n'est pas Ricky Martin.
Ni Ricky Nelson.
Bedrick Smetana. C'est début 19e, il a presque inventé la musique tzigane à lui tout seul. Mort de la syphilis, si ça vous intéresse.
Jack n'écoute pas de musique moderne parce que ce n'est pas un homme moderne.
Il se prend pour Dieu. On le sait par les références bibliques qui émaillent les écrits qu'on a de lui. Et son désir de contrôler tout l'environnement.
Sam veut le sortir de cet environnement pour le rendre plus vulnérable. Il adore les roses et la musique classique.
Ça vous inspire quoi?
Qu'il a au moins 40 ans. Probablement une éducation assez traditionnelle.
Classe prépa? Grandes écoles?
Il n'est pas diplômé. Ce n'est pas une bête à concours, ni l'homme des évaluations constantes. Quand on est Dieu, je crois que c'est inutile.
Son problème, ça a dû être la discipline.
Ensuite, il a dû lui arriver quelque chose à l'origine de ce besoin de se prendre pour Dieu, de tout contrôler. Pour une fois dans sa vie, c'est lui qui a peut-être été dominé.
$1,50 en petite monnaie, une carte.
Il lui fallait des pièces pour téléphoner et la carte pour se diriger.
Vous avez un don pour découvrir les évidences.
Je dirais que j'ai les pieds sur terre.
Mais peut-être devriez-vous moudre du café? Ou vous brosser les dents?
Personne ne vous demande de travailler comme Sam. Pas plus qu'on attend de Sam qu'elle travaille comme vous. Il me semble déraisonnable de l'imaginer.
Alors, il n'y a pas que les collègues de Sam qui n'ont pas supporté cette remplaçante. Les fans, généralement, n'ont pas trop apprécié le changement.
Oui, apparemment le changement a été un peu trop brutal pour eux, le passage de Samantha à Rachel. Pourtant, je trouve que la série est restée de qualité à ce niveau-là.
Et puis c'est un personnage que j'aime encore bien, moi, mais bon, oui, ça c'est mon avis.
Mais c'est un personnage assez tranché qui divise en fait. Hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Bon, malheureusement, la plupart des fans n'ont pas aimé, mais la série reste encore intéressante. Et pourquoi ? Parce que les scénarios restent très bien ficelés, et ça c'est constant au niveau des 4 saisons, parce que la traque des serial killers est suffisamment bien pensé pour tenir en haleine les téléspectateurs, parce qu'au cours des 40 minutes que durent les épisodes, on découvre progressivement les motivations des tueurs, et ça pioche parfois dans la mythologie grecque, dans la BD ou dans les traumas du passé, la guerre du Vietnam. Et l'omniprésence, dans les 3 premières saisons, c'est vrai que l'omniprésence du personnage de Jack, ce psychopathe, et l'arc narratif qui se déroule tout au long, est quand même l'attrait principal de la série, même si la traque des serial killers est intéressante. C'est quand même ça qui fait, on se demande vraiment, bon, quand est-ce qu'elle va finir par l'arrêter, celui-là. C'est vrai que la relation qu'il développe avec Sam est assez malsaine aussi pour titiller l'attention du public. La mise en scène aussi n'est pas en reste, il faut la souligner. Chaque épisode est construit comme une sorte de mini-film. La photographie est aussi assez soignée et elle installe un climat de peur tout au long des épisodes. On peut ajouter à cela un montage tout aussi excellent qui est proche de la tachycardie. Ça va très vite, c'est assez effrayant. Et il y a aussi des fois les moyens qui sont mis en œuvre. Je me souviens plus du nom de l'épisode, mais il y a un épisode où il traque un pyromane qui fait exploser des voitures, mais c'est des explosions assez démentielle, et vraiment c'est assez impressionnant pour une série. Et donc on peut vraiment dire que les petits plats ont été mis dans les grands pour cette série. Dommage de noter que la série connaît une accalmie dans la saison 3 à ce niveau. Le montage devient plus calme, plus posé, et bon, on retrouve pas toujours ce climat assez oppressant, assez qui donne un sentiment d'urgence, et on ne le retrouve pas dans la saison 3. Il revient un peu plus dans la saison 4, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou dans la saison 3. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que les scénaristes ont su prendre des risques dans la série. Bon, ben, même s'ils ont voulu aborder un tournant dans la saison 3 en essayant de calmer les choses, bon, on peut pas leur reprocher d'avoir pris ce risque-là. Au moins, ils ont voulu essayer de se renouveler. Alors, au rayon des risques payants, on peut souligner le fait d'avoir étoffé les personnages secondaires. De plus, on peut voir aussi les luttes de pouvoir au sein même du FBI ou entre les polices, qui sont assez intéressants et qui renforcent aussi ce sentiment de héros multiples que tu apprécies particulièrement, Sarah.
C'est gentil.
Et donc en fait qui fait qu'on ne s'intéresse pas que à Samantha, même si c'est vrai que c'est elle qui reste là très principale. Alors au rayon des prises de risques ratées, je trouve que l'arrestation du faux Jack dans la saison 3 est un petit peu bizarre, parce que pendant tout un moment on croit vraiment que c'est le vrai Jack qui a été arrêté, et puis tout d'un coup apparemment les scénaristes se sont dit non, là on s'est planté, on va recommencer, on va remettre Jack en selle, et Jack revient, on sent qu'il y a une invraisemblance au niveau du scénario.
Ils se sont dit qu'ils s'étaient plantés, ou alors ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'une sortie intéressante pour l'actrice. Ça peut être ça aussi.
Oui, ça peut être ça. Mais en tout cas, cette arrestation du faux Jack est un peu abracadabrante, en tout cas. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'un homme peut se faire passer pour un serial killer pendant toute une année sans que la personne qui le profile depuis des années puisse s'en rendre compte? C'est un peu bizarre. C'est d'autant plus dommage que cela fait passer Sam pour une idiote, ce qu'elle n'est pas. Cette prise de risque aura pour effet de faire baisser la tension de la série et puis de marquer clairement une baisse de qualité. Mais heureusement, l'arrivée tardive du vrai Jack va quand même remettre du piment. Et puis l'arrivée de Rachel, même si elle n'a pas été appréciée, remet du piment dans la série, qui marque aussi le dernier risque pris par les scénaristes. Au niveau de l'arrivée de Rachel, c'est vrai qu'au tout début, il manque quelque chose quand même. Le départ d'Ali Walker est assez flagrant. On a du mal à s'attacher à ce personnage qui est assez tranché. Mais finalement, c'est vrai que si on s'y attarde un petit peu, il reste attachant. Et ce qu'il manque le plus à ce personnage, c'est une sorte de némésis, une sorte d'ennemi comme Jack était pour Sam. Ce que les scénaristes vont mettre du temps à construire, ils vont en construire un d'ailleurs, une sorte de personnage un peu mystérieux qui en veut à Rachel. Malheureusement, la série va se terminer sur une fin inachevée, puisque Rachel va se retrouver en prison à cause de ce personnage mystérieux. La VCTF va être au bord de la faillite, mais en tout cas va être en très mauvaise position. Et voilà, ça s'arrête là. Malheureusement, il n'y aura pas de téléfilm pour terminer cette intrigue, donc c'est assez dommage, je trouve.
Je pense qu'ils avaient aussi joué sur la relation avec son frère à un moment.
Oui, ils avaient joué sur cette relation avec son frère qui se fait tuer par ce personnage mystérieux dont on ne saura jamais l'identité, malheureusement. Et c'est assez dommage d'en être resté comme ça sur cet élément ouvert. Bon, on peut dire après que ça reste dans l'imagination de chacun après de le terminer, mais c'est un peu dommage quand même de ne pas avoir au moins essayé de créer un téléfilm pour terminer cette intrigue.
Merci beaucoup pour ce dossier.
Eh bien,
et on se retrouve
toi,
une prochaine fois.
retrouver aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.